Si loin, si proche. Le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Jérémy Boucher.
Cinquième jour de mer, la mer hausse le ton anthracite. 40 nœuds. Un tout petit bout de voile à l'avant. Et on file avec la houle aux fesses. Plein pot. Et tout va bien.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. On met les voiles aujourd'hui dans le bruit des vagues, le souffle du vent et surtout le craquement du bois dont on fait les bateaux dans cette intimité, cette solitude parfois des marins en mer. La voix que vous venez d'entendre qui nous invite justement à bord dans cette intimité, c'est celle de Sandrine Pierrefeu, notre invitée cette semaine. Sandrine est navigatrice, écrivaine, journaliste, passionnée de large et de mer froide. Et depuis une décennie, elle arpente plusieurs mois durant les latitudes arctiques ou antarctiques pour en livrer après ses impressions de vie et de voyage en mer à plusieurs, avec des équipages souvent hétéroclites qui n'ont pas nécessairement le pied marin. Sandrine, elle, l'a toujours eu, mais elle a tardé à en faire son métier. Et désormais, marin professionnel, elle a décidé de raconter la mer, sa mère à elle, dans des récits aux allures de carnet de bord, bourrés d'humour, de rêverie et de sensibilité, tournés vers l'autre, tout à son environnement iodé. Et aujourd'hui, avec elle, vous allez l'entendre, chers auditeurs, la vague est plus que jamais une onde.
Digues, forts, rocs, les portes de la terre s'ouvrent. Sur les eaux lisses d'avant le large, la goélette s'applique à prendre son élan. Elle se débride. Fine comme une lame, elle accélère. La toile semble démesurément haute au-dessus de sa muraille d'animal de haute mer. Taillée pour les houles sans escale, elle ressemble aux albatros du Grand Sud, qui volent sans battre des ailes. Dans la brise volage des bords de côte, elle monte en puissance pour aborder dignement l'Atlantique. Sa course est déjà tendue, quand la mer l'accueille, presque amoureusement, elle la prend. L'avant se soulève, puis replonge. Le nez s'élève à nouveau, plus haut, et la vitesse infléchit. La goélette entame son dialogue avec l'océan. Elle prend son pouls et lui répond. Accélérant dans les creux, elle remonte au vent sur la vague suivante. À la manière d'une respiration, la danse s'installe, organique, dans la houle qui enfle. Le large, la mer enfin, nous sommes sauvés, sortis de la gueule du loup, arrachés à la glu des jours immobiles.
Sandrine Pierrefeu, bonjour.
Bonjour.
Alors on vient tout juste d'entendre vos mots tirés de votre dernier récit, La Matelote et les Funambules, paru récemment en France aux éditions Glénat. Un nouveau livre qui vient après Partir, 66 degrés nord, un récit remarqué en 2021 par les gens de mer et de lettres, couronné d'ailleurs du prix Albatros et Écume des mers, écume de mer d'ailleurs je crois. Ce qui nous a donné envie évidemment d'en savoir plus sur votre trajectoire et puis votre regard aussi singulier qu'on a entendu là. Quand on quitte comme ça la terre en voilier et qu'on prend le large. Et je me suis dit, prendre le large déjà, ça c'est une expression qui en dit long. Quand vous êtes en bateau, à quel moment on sait, c'est quand vraiment on est sur cette ligne d'horizon, qu'on a pris le large?
Quand on voit plus la terre. Je crois qu'il y a quelque chose de très particulier comme ça, une sorte à la fois d'inquiétude et de jubilation. Tous les marins, je crois, se retournent et guettent ce moment à la faveur d'un banc de brume ou simplement du temps, d'une sieste, d'un changement de quart. On se retourne, elle n'est plus là. Elle a disparu. Et là, on sait qu'on est au large.
Et alors, est-ce que c'est pour agrandir vos horizons, justement, où vous avez décidé de devenir finalement capitaine, de passer vos brevets, comme on dit dans le milieu? Parce que vous avez fait ça, je l'ai dit en préambule, sur le tard. Vous aviez quel âge?
J'avais 40 ans quand j'ai passé mon premier brevet, et pas du tout avec l'idée d'être capitaine, avec l'idée romantique et très particulière de devenir professionnelle, de rentrer dans cette grande famille des gens de mer. Et pour moi, c'était un titre plus honorifique que la plus haute école, que le plus haut diplôme, c'était d'avoir mon brevet de matelot à 40 ans.
Et pourquoi vous avez attendu si longtemps alors ?
Parce que quand j'avais 20 ans, il y a 34 ans, devenir marin pour une jeune fille ne faisait pas partie des propositions. La mer appartenait beaucoup aux hommes, notamment marine marchande. Il y a toujours deux choses dans ma vie, la mer et l'écriture. Donc je suis partie à apprendre l'écriture et je naviguais beaucoup. Et je me suis dit, j'ai envie de passer derrière les coulisses. On ne peut pas parler de ce métier-là sans réellement l'épouser, l'embrasser. Du coup, à 40 ans, je suis devenue matelot.
Alors aujourd'hui, quand même, les femmes sont de plus en plus nombreuses sur les bateaux. En tout cas, dans la voile traditionnelle plutôt.
Voile traditionnelle, il y en a de plus en plus. La pêche, toujours très peu. Le chiffre dans le monde, c'est entre 1,5 et 2% des marins de la marine marchande sont des femmes.
Ah oui, ce qui fait très très peu.
Ça fait très très peu. L'inscription maritime était interdite aux femmes jusqu'à 1966. La première femme à entrer dans l'école de marine marchande française, c'est 73. Et je crois qu'à l'école navale, donc militaire, la première, ça doit être 94. Et en 73, c'était sur un malentendu. La personne qui avait postulé s'appelait Alix. On a cru que c'était un homme, on lui a dit oui. Après, on ne pouvait plus faire marche arrière.
Sachant qu'il y avait évidemment dans ce monde des hommes de la mer cette tenace, on va le dire, oui, comme ça, superstition, qui voulait qu'une femme à bord portait malheur. Et je me demandais, alors au XXIe siècle, aujourd'hui, vous, est-ce que vous avez encore ressenti cette superstition-là ?
La superstition, je l'ai vécue il y a 25 ans en allant faire un reportage sur un bateau de pêche où les gars m'ont accueilli en me disant « Une femme sur un bateau, c'est pas neutre, soit ça porte bonheur, soit ça porte malheur. » Il reste, et il y a maintenant de réelles études là-dessus, que les hommes se sont habitués à un entre-soi masculin sur les bateaux. C'est déjà pas une vie facile entre hommes. Et du coup, une femme... C'est compliqué de faire rentrer une femme dans cet entre-soi d'homme quand on ne s'y est pas préparé, quand on ne le souhaite pas.
Alors à ce sujet, on va écouter à présent une archive INA, France Culture, tirée du documentaire d'Arnaud Contreras, Femme de mer, justement. On y entend Catherine Poulain, que vous citez d'ailleurs en référence dans votre dernier livre. La Française est l'autrice d'un premier roman, sorti en 2016, un roman magnifique et très autobiographique, Le Grand Marin. Parce qu'avant d'écrire, Catherine Poulain a passé 10 ans sur les chalutiers de pêche au large de l'Alaska.
Il faut dire qu'en Alaska, il y a plus de femmes qui pêchent qu'en Europe, beaucoup plus. Le regard des hommes, lorsque j'ai embarqué, certains étaient peut-être un peu... Je devais avoir quelques doutes par rapport à mon gabarit. Mais ce n'est pas un problème. De toute façon, il fallait que je fasse mes preuves. Si je n'avais pas été suffisamment bonne, on m'aurait tout simplement débarqué au prochain retour en ville. Oui, ces hommes étaient plutôt indifférents. La seule chose qui compte, c'est le travail. Ils n'avaient déjà la tête qu'à cela. Et petit à petit, ils sont devenus... Je les ai trouvés bienveillants, je les ai trouvés bons. Mais, pour certaines personnes n'auraient pas supporté. Les hurlements, se faire attraper tout le temps, se faire prendre sa couchette, bon c'est un détail. Mais les hurlements, certaines femmes n'auraient pas supporté. Dit comment on me traite, alors que c'est l'apprentissage qui fait ça. C'est un apprentissage dur. Et il faut payer, il faut apprendre. Mais en tant que femme, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on en fasse davantage. Et avec ces hommes aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on arrive à... Justement, il faut passer par l'épuisement, par le... être comme essouré par la laminée, par l'effort et oui, l'épuisement. Alors, il n'y a plus question de genre. On s'endort sur nos couchettes les uns à côté des autres, enfin, dans cet habitacle étroit et moite et on est comme des petits animaux qui dans la même chaleur, la même. et c'est bon, c'est une vraie famille.
Sandrine Pierrefeu, cette famille dont vient de parler Catherine Poulain, soudée dans l'épreuve et puis aussi, on l'a entendu, dans la promiscuité presque animale de la banette, la couchette dans les bateaux. Vous en parlez dans votre livre « La matelote et les funambules », telle une famille de mères qui doit finalement se trouver, s'inventer aussi dans ses voyages au long cours. Sachant que, en l'occurrence, dans votre livre, il s'agit d'un voyage de 3 mois sur un voilier, l'Orient, direction le Groenland, avec pas que des gens de mer, avec aussi des alpinistes, des acrobates, plutôt du genre terrien. Une drôle de famille, en fait, j'ai envie de dire. Il faut l'inventer, cette famille-là.
Oui, il y a le vivre avec qui doit s'inventer. Déjà, entre soi, entre marins, ça s'invente à chaque fois, mais on se renifle et on a des garde-fous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Il y a des manières d'agir. S'il y a un moment, il est 2h du matin, le vent a forci, il faut changer la toile, eh bien, on va lancer un bon mot. Et ça remet tout le monde. On sait qu'on est là, on a choisi d'y être, ça fait partie du truc, et c'est la moindre des politesses. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on cultive, et qui est assez agréable, en fait. Quand on mène dans ce jeu de quilles-là, des gens qui ne sont pas au fait des choses à faire ou à ne pas faire, ça nous renvoie un miroir sur notre entre-soi à nous, pour le coup, puisqu'on parlait d'entre-soi, notre entre-soi de marin. Et on se rend compte qui on est, on se rend compte comment on fonctionne. Et on est obligé de prendre conscience de nos manières de fonctionner qui sont quand même un peu particulières.
Et c'est justement ce que vous racontez dans votre livre, ce choc des cultures, en fait, des éléments aussi, on peut dire, puisqu'il y a d'un côté les gens de mer et puis de l'autre ceux de la terre, de la montagne. Et vous racontez bien comment, effectivement, dès le départ, certains de ces alpinistes, qui n'ont pas forcément, il y en a même qui ne sont jamais montés sur des bateaux, mais ils ont du mal à comprendre cette servitude qu'implique le bateau, le soin qu'il faut avoir sans cesse du bateau. C'est pas juste un vaisseau en pilotage automatique qui vous amène à destination. Et ça, on sent que vous essayez de leur faire comprendre qu'il faut prendre soin de ce bateau.
Prendre soin de ce bateau avant soi-même. Et si l'on prend soin de soi au cœur de ce bateau, c'est pour mieux servir le navire. Il y a quelque chose de... J'avais envie, à travers ce récit, de raconter l'intimité des gens de mer, qui sont des gens qui sont peu causants, et qui, une fois qu'ils sont à terre, prennent soin des gens qu'ils ont laissés derrière et vont assez peu parler de ce qu'ils ont vécu. Parce que comment décrire cela? C'est difficile. C'est... Et puis finalement, on a presque envie d'oublier ce temps loin des gens qu'on aime quand on rentre, de se réoccuper d'eux. Du coup, on est un peu taiseux. Et j'avais envie d'ouvrir ça, d'ouvrir cela comme on ouvre une noix. Et l'idée de mettre en scène des candides, des gens extérieurs, ça m'a permis de décrire notre vie et de la décrire pour ceux qui n'y vont pas. Or, on sait que le monde maritime est extrêmement important. 90% des objets qu'on manipule au quotidien sont transportés par mer, donc par des gens comme nous, dont personne ne connaît la vie finalement. Et j'avais envie de partager ça.
Alors, une vie de marin, et puis aussi, il y a ces acrobates. Alors, c'est une famille, mais j'ai l'impression un peu recomposée, parce que vous n'avez pas forcément raconté un voyage en particulier. Vous avez composé plusieurs voyages avec ces montagnards, ces acrobates alpinistes, parce qu'il y en a de plus en plus qui montent les parois au Groenland. Et c'est vrai qu'au contact de ces gens, bah, vous aussi, vous entrez dans leur élément. Et vous allez faire ce qu'on appelle de la slackline ou du funambulisme. Et vous allez vous-même vous essayer à cette corde, cette sangle tendue entre deux parois, où on avance, il y en a qui dansent, bon, ils sont un peu aguerris, on va dire, et vous, vous essayez. Et je me suis demandé, est-ce que ça se rapproche, cette sensation comme ça dans les airs, du monde flottant qu'on connaît en mer, ou pas du tout?
Ça m'a rappelé plus, je dirais, le vol libre, c'est-à-dire cette sorte de changement d'élément. Mais c'est parce que je passe beaucoup de temps en mer et c'était tellement inconnu que ça ne m'a pas rappelé la mer. On avait envie, à travers ce voyage, de faire se rencontrer des évidences. Les évidences des uns à la face des évidences de l'autre et de les éprouver, pas seulement d'être l'expert surplombant qui explique à des candides ce que c'est que la mer, mais de se dire, ben ok, mais à la fin du voyage en mer, il va falloir que nous aussi on s'y colle et qu'on soit des candides. Et ça, c'est assez riche. On est toujours le candide de quelqu'un.
Et puis donc c'est une rencontre entre ces deux mondes. Et puis il y a aussi bien sûr les Inuits, chez qui vous vous invitez en mode un peu cirque, circassien au Groenland. Tout ça sur fond de glace, de mer et de roches. Tout ça, on en parle avec vous Sandrine Pierrefeu. Mais d'abord, il faut aller sur l'autre rivage. Tout de suite, c'est Gabrielle Verlien sur RFI.
Couldn't cry. I took the road to come back home, come back home. Lost on the way, I didn't know anymore. Where was my home? Was I mistaken about directions, about decisions?
Notre deuxième nuit, on a décidé de le faire en 8 jours. Ça veut dire qu'il faut faire 120 000 par jour. Ça paraît peut-être pas très intéressant, mais pour nous c'est important. Ça veut dire qu'il faut garder à peu près 5 nœuds. Alors on guette, comme des gosses. Il est un peu plus de minuit, je prends le garde du chien, on garde 1 à 3. Et j'ai mis un long moment avant de comprendre que là, quand la mer s'allumait par endroits, les petits endroits, brusquement, c'est qu'on dérangeait un oiseau et qu'il plongeait dans le plancton phosphorescent.
Sandrine Pierrefeu, en préparant cette émission, vous m'avez proposé ces courts extraits qu'on a entendus là, qui sont comme des petits carnets sonores que vous avez enregistrés. Là, vous êtes en route pour l'Alaska et on entend bien, justement, dans ce que vous racontez, à quel point vous avez à cœur aussi de partager les sensations que vous avez en mer et puis la poésie de ce temps en mer. Ce plancton luminescent, par exemple, moi, j'en ai jamais vu. J'ai pas eu cette chance, mais j'ai regardé. C'est le problème d'Internet, c'est qu'on va voir. Un jour, j'irai en mer peut-être pour le voir de nuit. Mais c'est fascinant, parce qu'en fait, ça fait comme un espèce de tapis d'étoiles bleuté sur l'eau.
Alors, c'est bleuté ou vert selon les latitudes. La première fois que j'en ai vu, c'était une des premières fois que j'avais un bateau de 15 mètres. De nuit, j'étais toute seule. C'est-à-dire que les autres étaient partis dormir, ça voulait dire qu'ils me faisaient confiance. Il y avait le pilote automatique. J'ai entendu respirer à côté de moi. Je raconte quelque chose un petit peu similaire à un moment dans le livre, mais j'ai entendu un souffle. Je me suis dit, tu rêves. Ressouffle, plouf, tu rêves pas. Et j'ai penché la tête et là, j'ai vu, en fait, grâce au plancton phosphorescent, ça éclaire un peu sous la mer. Et j'ai vu la gueule, le visage d'un dauphin. On a toujours l'impression qu'il sourit. Et grâce au plancton, je voyais son visage sous l'eau, à côté de moi, nager. En fait, ce plancton enchante tout. Et c'est vrai que ça donne une présence merveilleuse aux nuits de quart, comme s'il y avait un second ciel et qu'on naviguait dessus.
C'est ça, comme si vous naviguiez dans les étoiles, au-dessus et en dessous. Et puis ça dit aussi avec ce phytoplancton, parce que c'est le poumon de la Terre, c'est impressionnant à quel point c'est essentiel à nous aussi, bien sûr les hommes, parce que ça absorbe énormément, près de 50% je crois du dioxyde de carbone. Et donc on se dit que c'est un poumon qui fait de la lumière. Moi j'ai pensé à ça.
Oui, ça m'a fait penser aussi au fait que toute matière est à la fois une matière et une énergie. Là on a l'impression de flotter dans une sorte d'énergie lumineuse. Et effectivement, ce plancton, c'est la prairie, la base de la pyramide alimentaire, en fait, de toute vie. Et également le réservoir à partir duquel le ciel se remplit d'eau, d'oxygène, ça respire. C'est 2/3 de la planète.
Et puis là, alors on a entendu, vous êtes en quart, donc c'est ce temps de service où il y a une partie de l'équipage qui se relaie à tour de rôle. Et je me suis demandé, quand vous n'êtes pas en quart, Sandrine Pierrefeu, est-ce que vous écrivez à bord du bateau, en mer ? Parce qu'on a un peu cette sensation quand même, quand on vous lit, on a l'impression que les mots, ils tanguent un peu.
Alors oui, j'ai besoin de consigner par écrit ce que je vis de fort pour pouvoir faire de la place pour la suite. Sinon, au bout d'un moment, il y a trop de choses et ça explose. Et en mer, je vis beaucoup de choses fortes. Je trouve que c'est très, 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 très beau. Même le gros temps, et même si on fait tout pour ne pas s'y trouver, quand on est dedans... On est dans le chaudron, c'est absolument inouï d'être là. Et j'ai énormément de gratitude pour toute cette beauté. Je me sens privilégiée aussi d'y être, même si c'est un choix. J'ai envie de le partager.
Même dans la tempête ?
Bah oui, parce que finalement, jamais j'irai volontairement. Mais si j'y suis prise, je me sens privilégiée de voir les éléments dans une telle magnificence. C'est splendide une tempête. Et j'ai très très envie d'essayer de le partager, même si ça marche jamais. Et du coup, oui, très souvent, après mon quart, souvent la nuit, j'écris quelques lignes. C'est pas toujours brillant, hein, mais ça me permet de décharger la poche à émotions pour garder de la place pour la beauté suivante.
Et puis, il y a aussi des petits extraits comme ça de poésie. Il y a vos mots et puis ceux des autres. On sent que c'est important dans votre vie, la poésie.
C'est une des manières de dire le monde. Sans passer par le mental, en fait, un peu comme on caresse la tête d'un chien. Ça, on passe par d'autres sens, pour moi, avec la poésie, en fait. Je crois que ce serait le mode d'expression le plus direct, pour moi, par rapport au récit. Ces petits extraits poétiques, ils viennent directement comme ça. Je ne les travaille pas, en fait.
Et puis, la poésie, on la retrouve, bien sûr, dans les paysages arctiques que vous rencontrez en bateau, au large des côtes de la plus grande île au monde, Kalaallit Nunaat, soit la terre des Groenlandais en Inuktitut, je ne sais pas si je l'ai bien dit. À ce sujet, on va écouter une archivina France Inter du français Évrard Vandelboom, qui est parti en expédition scientifique là-bas. C'était en 2017, au cœur de Scoresby Sound, un des plus grands fjords du monde, par 70 degrés 30 minutes nord.
Ce sont des paysages que moi je connaissais pas. Le côté arctique, l'ambiance arctique, c'est un truc qui m'a complètement frappé dès le départ. On a eu la chance d'arriver en bateau et il faut imaginer que là maintenant on a pris tous l'habitude de voyager en avion. Mais en bateau, ça a rien à voir. C'est beaucoup plus fort. En plus, dans ces eaux arctiques, il y a toujours une sorte de petit voile, on va appeler ça une sorte de léger brouillard de 20-30 mètres d'épaisseur, juste à la hauteur de l'eau. Donc quand on arrive en bateau, on est tout le temps dans un brouillard complet, jusqu'au moment où tout à coup, ça se découvre, on vient de rentrer dans le fjord, le soleil claque partout, les glaciers brillent dans tous les sens, et on voit des machins blancs là qui flottent partout. Et ces machins blancs, plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ce sont des immeubles, qui des immeubles de glace. C'est d'une beauté vraiment incroyable, et... Je dirais que ce qui, moi, m'a dépassé le plus, ce qui m'a frappé le plus, c'est pas les images, c'est les sons. Ouais. Parce que on a comme ça, dans notre idée, une idée de silence total en Arctique. C'est absolument pas le cas. Et notamment, ces icebergs font un bruit en permanence. On a l'impression d'être dans une nuit d'orage tout le temps, que ce soit nuit et jour. Dès quand on prend le petit-déj, il y a de l'orage quelque part. En fait, c'est pas de l'orage, il fait grand beau, mais il y a des icebergs qui se retournent, qui craquent, etc. C'est fantastique.
Sandrine Pierrefeu, vous avez navigué, vous aussi, dans ces fjords truffés d'icebergs très sonores, comme on l'entend là. Et c'est vrai que ça ressemble à un grondement de ciel, comme à un orage. Vous, c'était plus bas, vous étiez toujours sur cette côte est du Groenland. Durant votre voyage que vous narrez d'en partir 66 degrés nord, vous avez rencontré, pour la première fois peut-être, ces monstres de glace qui craquent et qui s'éboulent. C'est magnétique, c'est ce que vous écrivez justement dans votre premier récit.
Oui, je les avais vus de haut, en avion, en allant en Polynésie quand j'allais rejoindre mon père qui vivait sur un bateau. Gamine, j'ai vécu 3-4 mois par an sur un bateau. Et je les avais vus dans la baie d'Hudson, je les ai vus ensuite en survolant la mer pour aller en Alaska, les sons qu'on a entendus. Et je n'ai eu de cesse d'essayer de trouver un moyen d'aller les voir en vrai. Et c'est effectivement... C'est Pia, une capitaine de SOS Méditerranée, qui dit que ces paysages ressemblent à des poèmes. La glace est effectivement une drôle de matière fascinante, magnétique. Quand on dort non loin d'un glacier qui vèle, c'est-à-dire que des morceaux de glace se détachent, on a effectivement l'impression d'explosion, de détonation, de coups de tonnerre. C'est très troublant, à tel point que, par exemple, pour effrayer un ours polaire, ça ne sert à rien de tirer un coup de fusil, parce que les détonations... Ils y sont habitués, donc il vaut mieux animer une cloche ou donner un son de corne de brume. Ça, c'est des sons qui peuvent paraître exogènes, mais une explosion d'armes à feu, ils n'entendent même pas, en fait, ça ne les inquiète pas. Donc oui, c'est un univers extrêmement sonore. Il y a aussi plein de glou-glou, de bulles, de ruissellements, de goutte à goutte. Oui, la glace parle, elle chante.
Et il faut savoir l'écouter. Et alors, je me demandais pourquoi le Nord, justement ? Pourquoi vous avez décidé dans votre trajectoire, non contente de décider de devenir marin professionnel, mais d'aller justement dans ces lieux froids, dans ces mers froides ?
Alors quand j'étais gamine justement en Polynésie, on avait croisé, je dis on, c'est sur le bateau familial, un couple qui avait un bateau similaire, c'est un Josua, c'est les bateaux de... les copies des bateaux de Bernard Moitessier, un bateau en acier.
Le grand navigateur français,
oui.
Auteur de La Longue Route.
C'est ça, tellement inspirant. Ces gens-là, ils ont leur bateau Northern Lights, donc ça veut dire les aurores boréales en anglais, arrivaient d'Arctique et partaient en Antarctique. Et ils m'avaient énormément fait envie avec leurs livres sur les glaces. Après, le Nord ou le Sud, ça m'est égal, le Nord est plus près, le Nord est habité, donc j'ai moins la sensation de déranger dans le Grand Nord que dans le Grand Sud, je dirais, où il n'y a que les animaux.
En Antarctique.
Oui, voilà. Après, pourquoi le froid ? J'ai horreur du froid. Je crois que c'était la beauté, c'est ce désert-là, qui, cette beauté, alors c'est cliché, mais intouchée. Il y a quelque chose là qui m'a fascinée. Peut-être aussi d'avoir été enfant dans les endroits chauds. Quand on a été en Polynésie enfant, là, l'espace suivant, différent, bah, c'est peut-être le froid.
Et puis, il y a aussi quelque chose, j'imagine, pour la navigation, qui doit être très particulier, parce que vous en parlez, on se retrouve, enfin, vous vous retrouvez, mais je vous ai bien suivi, hein, vous avez vu dans la lecture.
Je vois ça.
En tout cas, naviguer là-bas, c'est se mesurer au pack, donc c'est cette glace de mer morcelée, où il y a des énormes glaçons comme ça, qui sont plutôt dangereux. C'est vivre aussi les jours sans nuit, l'été. C'est avancer aussi à tâtons, ce qui a été votre cas dans des lieux qui ne sont pas toujours bien cartographiés. Donc en fait, il y a quand même une navigation particulière là-bas.
C'est comme de réapprendre à naviguer. C'est-à-dire à naviguer dans la glace, c'est réapprendre, vraiment. Pas tout, parce que voilà, ça reste de l'eau, mais c'est pas que de l'eau. Ça peut être de l'eau solide, il y a des formes de brouillard. Un endroit non cartographié, ouais, c'est, on repart un peu à zéro.
Donc on navigue comment alors, justement ?
Au sondeur, au radar pour ce qui dépasse de l'eau. Mais quand il y a des vagues, ben il y a les vagues plus les glaces qui dépassent de l'eau. Donc, on ne peut pas savoir laquelle est une vague, laquelle est un morceau de glace. Donc, il faut y aller doucement quand il y a du brouillard. Et pour ce qui est sous l'eau, on navigue au sondeur. On appelle ça la cartographie par la quille. Donc, on y va doucement. Si ça cogne, on recule et on essaye plus loin.
Et puis aussi là-bas, il y a les aurores boréales. Et qui de mieux pour en parler que la grande dame de la mer, Anita Conti ?
À quoi ressemble une aurore boréale ?
Ah, un rêve, un théâtre, tout sauf à une aurore. Ce n'est pas une aurore parce que c'est très près. L'aurore est quelque chose d'éloigné, tandis que l'aurore boréale, imaginez une nuit claire, noire, glacée, et du fond de l'horizon, généralement l'est-ouest, jaillit un feu vert qui monte, dessine une arabesque, généralement un point d'interrogation. Du point opposé, jaillissent d'autres flammes vertes. Elles se réunissent au zénith. Et quand elles se réunissent au zénith, elles sont vertes, mais elles s'ourlent de rose, Elles deviennent de feu, roses, et elles semblent danser autour de nous comme des robes de tulle. Une aurore boréale, c'est une immense danseuse qui enveloppe le navire d'un voile de rêve et de feu. C'est très dense, on est dans l'aurore, c'est-à-dire dans le feu, dans les lumières de ce qu'on appelle l'aurore boréale.
Sandrine Pierrefeu, cet émerveillement dans la voix réjouie, presque enfantine, je me suis dit, de pourtant une très grande femme, une océanographe française, pionnière, Anita Conti. C'était en 1953 dans cette archive. Et donc cet émerveillement, vous l'avez vous aussi, on l'entend depuis le début de l'émission. Et puis il est arrimé, j'ai envie de dire, à votre plume aussi. On sent que vous avez envie de partager ça. C'est-à-dire, vous avez parlé de la gratitude, de se sentir là, à ce moment-là. Il n'y a pas que les aurores boréales, ça, c'est vrai que ça a l'air d'être un spectacle très particulier et on doit se sentir très chanceux dans ces cas-là. Mais on sent que vous avez envie de partager à la fois la beauté et puis aussi, vous en avez parlé, la sincérité, la réalité plutôt d'une vie en mer, avec cette intimité-là, l'intimité avec les éléments et puis l'intimité aussi entre les hommes. Il y a les deux.
C'est un mode de vie très très particulier d'être ensemble dans un tout petit espace, un peu comme une navette spatiale, dans un univers dont on ne peut pas sortir, finalement, on ne peut pas marcher sur les eaux. Et ça implique effectivement de construire un vivre ensemble dans lequel, à mon sens, l'émerveillement est une clé. S'émerveiller ensemble, ça soude, ça permet peut-être d'oublier que l'autre ronfle, ou au moins de le pardonner. Et l'émerveillement par rapport à un univers non humain peut peut-être nous permettre de nous émerveiller un petit peu des trébuchements, des humains autour. Vous voyez, il y a une sorte de reliance qui, à mon avis, est précieuse et c'est aussi ça que j'aimerais partager. Peut-être que quand on vit trop entassé dans des villes où on devient moins tolérant, moins... Le fait de vivre à très peu dans des endroits aussi larges, aussi amples, peut-être ça nous redonne envie d'être plus tolérants les uns envers les autres.
Mais oui, on peut le dire. C'est une bonne chose que de le dire. Et c'est vrai que l'environnement façonne aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a la petitesse de la cabine. Et puis après, il y a tout l'environnement, ce grand large, qui à la fois vous appelle, mais qui, quelque part, j'ai l'impression, vous structure, si je puis dire. Vous diriez ça ?
Oui, je crois même quasiment quelque chose de plus animiste. On est ce qu'on respire, on est ce qu'on voit, on est ce dans quoi l'on baigne, presque de manière organique. Cet air qu'on respire avec des atomes qui viennent de l'iceberg d'en face, pour moi, il nous façonne en fait. Cette espèce de sentiment que de s'immerger dans des lieux immenses, intouchés, sauvages, peut nous redonner de la sauvagitude. Et cet émerveillement, je pense qu'il est très utile, en fait. Une sorte de candeur, d'enfance retrouvée.
Alors, pour revenir à Anita Conti, qu'on a entendue, il faut rappeler comment déjà elle est partie très tôt sur des bateaux océanographiques, mais surtout en campagne de pêche, dès 1935-37, je crois, vers Terre-Neuve, l'Arctique aussi, et puis les côtes africaines, où elle a marqué les esprits là-bas. On l'appelait la Dame Blanche, parce qu'elle avait réussi à se fondre dans ce monde des pêcheurs. Elle en a témoigné dans ses livres, ses images aussi. Et je me suis dit que ces photos qui sont vraiment sublimes, en noir et blanc, comme ces récits ont dû vous bercer aussi.
Oui, oui, oui. Ella Maillard, Anita Conti.
Parce qu'elle a été aussi navigatrice, effectivement,
bien sûr,
Ella Maillard.
Bien sûr.
La vagabonde des mers.
Oui, la vagabonde des mers. Alors, son propos sur la mer, la liberté, l'oser, les femmes en mer également, est vraiment, oui, très, très inspirant. Il y a pas eu tant de femmes que ça en mer, mais connues. Il y a aussi des pêcheuses, il y a les amas au Japon, il y a les femmes de Patagonie. En fait, oui, il y a énormément d'inspiration.
Il y a peut-être une inspiration alors qui est plus nichée, qui est plus tapis vous concernant, mais j'allais y venir, c'est l'Afrique, parce que vous avez une histoire qui remonte à l'enfance avec les gens de la mer là-bas.
Oui, c'est drôle que vous ayez trouvé ça. Moi, j'ai grandi les 5 premières années de ma vie entre le Sénégal et la Mauritanie. Et la première fois que j'ai vu la mer, je devais avoir 2-3 ans. Et j'étais persuadée que, comme le soleil s'y couchait, elle allait être beaucoup plus chaude le lendemain. J'avais un lien comme ça, assez étonnant avec cet océan, après tout ce désert. Et on allait, effectivement, quand j'étais petite, notamment au banc d'Arguin.
Qui est magnifique et truffé d'oiseaux.
Voilà. Et où il y a toujours, d'ailleurs, les pêcheurs Imraguen, qui pêchent avec les dauphins. Et puis même, sinon, le Ciné Saloum, la Casamance, ces lieux-là, je reviens de Gambie. Et ça a été pour moi un immense plaisir de retrouver l'Afrique, et notamment l'Afrique noire. J'ai pris une énorme leçon d'humanité.
Justement, on va mettre le cap, oui, rester en tout cas sur l'Afrique, sur RFI, avec le duo ghanéen-allemand Djemba Groove et leur titre Dabia. Si proche, on a quitté les mers froides de l'Arctique pour rejoindre cette fois les eaux chaudes des côtes africaines, toujours en compagnie de Sandrine Pierrefeu, navigatrice et autrice de récits glacés mais très tendres aussi, sur ses voyages en mer, d'apprenti capitaine au départ qui a pris du galon quand même depuis. Et dans vos livres, Sandrine Pierrefeu, on sent que vous avez à cœur, on l'a dit, de dire les gens de la mer, taciturnes parfois, vous l'avez dit, de parler de la réalité de la vie sur les voiliers, qui n'est pas banal, vous nous l'avez dit aussi, avec ses humeurs, ses saveurs et puis aussi cette rudesse. Et je me disais justement que les mers soient chaudes ou froides, on sent que c'est une vie malgré tout rude.
C'est une vie exigeante.
Ce qui n'est pas pareil.
C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand on est sur un bateau, qu'on en soit responsable ou pas, peut-être un petit peu plus si on en est responsable du navire, on ne se relâche. C'est une école de pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut être en permanence alerte, observer, être prêt à tout imprévu, enfin au maximum d'imprévus possible, avoir un plan dans le sac au cas où la barre lâche, au cas où un feu se déclare, au cas où quelqu'un manque passer par-dessus bord, une drisse casse. Du coup, c'est une sorte d'école de vigilance vraiment et d'humilité forcément.
Et alors, vous nous avez dit, juste à l'instant, que vous êtes partie en Gambie. Vous étiez en voilier là-bas ?
Alors oui, j'ai rejoint une amie qui s'appelle Marie Sergent, qui a descendu son bateau de Brest jusqu'à Mindelo, au Cap-Vert, et elle hésitait à retourner en Gambie. Et ses amis lui disaient « Non, non, c'est une folie ». Puis on s'est mis à trois amis marins, marines.
C'est ça, parce que ouais. Marine n'existe pas.
Mais non, Marine n'existe
pas. On féminise pas le marin.
Non, c'est pour ça que j'ai appelé le livre « La matelote ». Parce que je voulais quand même que ce soit un peu féminin. Et nous sommes partis donc à quatre filles sur un bateau de 11 mètres. On a rejoint l'embouchure du fleuve Gambie et nous l'avons remonté assez loin jusqu'au parc national où on pouvait voir des chimpanzés en réhabilitation, des crocodiles, des hippopotames. Et c'était très, très touchant de passer de la planète mer à la planète fleuve. On avait un ami africain avec nous, un Gambien qui avait embarqué à Banjul. Puis on s'arrêtait dans les villages. C'était vraiment une très très belle, un très beau parcours.
En tout cas, quel que soit le voyage ou le mouillage, que ce soit au nord comme au sud du monde, ou finalement sur un fleuve ou sur les mers, à un moment, eh bien, il faut rentrer, revenir à terre. Je vous propose d'écouter à ce sujet une autre grande voix de la mer qu'on a reçue déjà plusieurs fois dans l'émission et que vous aimez, je crois. J'ai même lu que vous aimeriez bien naviguer avec elle. Cette voix, c'est celle d'Isabelle Autissier, navigatrice, autrice française et ingénieure agronome très engagée. On l'écoute dans une archivina France Culture de 2018 où elle nous parle de voyage, aller et retour.
Je pense que d'abord, on la sent, la terre. Surtout si on a un vent, évidemment, qui vient de terre, ce qui peut être en situation hivernale en Europe assez fréquent. Alors on s'y prépare, on le sait sur la carte, on le voit, on se dit, bah, tant de milles, je vais voir quelque chose. Malgré tout, c'est quand même toujours un choc. C'est quand même toujours, boucler la boucle. La planète est quand même très petite, on en a fait le tour à la voile. Il a fallu à peine quelques semaines, quelques mois pour le faire. On a rempli le contrat. On ramène le bateau, on revient. C'est aussi, bien sûr, le moment où on va retrouver ce qu'on aime. On va retrouver son équipe. On va retrouver aussi les joies de la Terre, parce que la Terre est pleine de joie. Elle est pleine de problèmes, mais elle est pleine de joie. Donc voilà, c'est un passage. Et autant il y a eu aussi, on est entré en mer quand on est parti, autant là, on va entrer en terre, si je puis dire. Mais oui, on était dans sa forme de petite routine, soit son bateau, l'océan, voilà. Et puis tout va changer tout d'un coup, quoi, en quelques minutes. Bon, on voit la terre, mais aussi après, en fait, la vraie rupture, c'est le premier bateau qui arrive. C'est le premier hélicoptère qui vous survole. C'est assez incommunicable, si ce n'est que les gens sont là. Voilà. Ils sont là parfois par dizaines de milliers. Alors évidemment, ça chante, ça crie, ça pleure, ça boit des coups, c'est très joyeux, très bon enfant. Mais il y a quelque chose de très profond qui passe, je trouve, qui est de l'ordre d'abord de la gratuité. Cette émotion qu'on partage en commun, elle a quelque chose de complètement gratuit. C'est complètement gratuit d'aller jouer à se poursuivre à la voile autour des océans, même si le bateau il coûte de l'argent. Mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, si ce n'est à ça. Ça sert à accomplir des rêves, ça sert à porter des rêves, ça sert à créer une chaleur humaine, ça sert à avoir de l'émotion. Et en cela, ça sert la communauté humaine. Et je pense que c'est ça que nous, on vit quand on revient. On a fait une petite pierre, hein, mais on a mis une petite pierre dans la communauté humaine.
Sandrine Pierrefeu, Isabelle Lautissier vient d'en parler. Revenir, c'est un passage, une mue. Presque, où il faut se défaire de sa peau de marin et de loup solitaire. En l'occurrence, c'est vrai que Isabelle Autissier faisait référence au Vendée Globe, où elle a bravé avant en solitaire, justement, des tempêtes, le Cap Horn et puis bien d'autres épreuves à l'époque. Vous, quand vous revenez, c'est peut-être pas la clameur d'un Vendée Globe avec des hélicoptères dans le ciel qui vous attendent à chaque fois, mais ceci dit, vous avez, vous aussi, connu ce genre de moments et de foule à quai. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, parce que vous avez été gabière sur la frégate l'Hermione. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce bateau et puis ce retour, justement, parce que vous avez connu ce retour aussi particulier auquel fait référence, justement, Isabelle Autissier.
Ce que j'ai envie de vous raconter, c'est l'escale aux Bermudes quand nous étions sur la route des Amériques. Et on devait aller directement en Amérique où on allait être attendu effectivement de cette manière-là, de manière triomphale, on peut le dire.
Parce que l'Hermione, il faut dire que c'est une reconstitution d'un vieux bateau servait justement au moment de la guerre d'indépendance.
Qui a été en fait la messagère du soutien de la France aux insurgés. Et du coup, on pensait en avoir encore pour une petite semaine entre nous au large. C'est un bateau merveilleux. Et il a été question de s'arrêter aux Bermudes 24 heures pour reprendre des fruits et des légumes. Et en fait... Là, on a senti toute l'ambiguïté du retour, ou enfin de l'arrivée. Là, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais quand même.
Et en tout cas, c'est rejoindre la Terre, quelle qu'elle soit.
C'est ça, exactement. On était dans l'atterrissage et ça nous a pris de court. On avait un œil qui pleurait, un œil qui riait. C'est-à-dire qu'on est à la fois puissamment heureux et rassuré de retrouver la Terre, parce que ce n'est pas notre élément, on n'est pas des pétrels. Et en même temps, on est très triste de quitter le large.
Et alors, je me disais, en dehors de ces moments historiques, parce que c'est vrai que, évidemment, une course, un tour du monde, cet événement qu'on a suivi en France et même au-delà, hein, c'est un événement international, l'Hermione. En dehors de ces moments historiques, quand on revient d'un voyage, on va dire, plus simple, mais déjà 3 mois en mer, c'est pas mal, on sent que c'est réapprendre aussi à se tenir sur la terre ferme, comme on dit. On sent que le corps, en fait, doit se replacer, se redéployer aussi. Il y a de ça, on sent que le corps est essentiel dans cette affaire.
C'est très curieux parce que quand on part en mer, il y a une sorte de vertige du début, peut-être sur du mouvant, c'est complexe. Nous n'avons pas le système pour ça. Et une fois qu'on y est fait et qu'on revient, on n'est plus tout à fait adapté à la terre. Les Anglais parlent de sea legs, des jambes de mer. Et du coup, quand on descend, la première fois qu'on a navigué pendant quelques jours, une traversée, on ne tient pas tout à fait sur les jambes, on a les jambes de mer.
On a le mal de terre.
Déjà, il y a les jambes, les appuis. On s'est habitué dans les jambes à bouger en permanence et du coup, on va amortir la terre alors qu'il n'y a pas besoin. Et du coup, c'est le corps qui descend et qui monte. Il y a souvent cette caricature des marins qui marchent les jambes arquées comme ça en appuyant les pieds. Ben, ils sont habitués à marcher sur des ponts, à anticiper les mouvements. Donc ça, c'est physiquement et psychologiquement, c'est un peu pareil. On arrive avec un cœur de mer.
Et puis avec un corps qui est rempli, vous y avez fait référence, rempli d'espace, de beauté, de lumière, de tout ce que vous avez vécu pendant ces voyages en mer. Ce que vous racontez très bien à l'issue de votre récit « Partir 66 degrés nord ». Vous écrivez, je cite, « À chaque mouvement, à chaque instant, jusque dans chaque rêve, ce pays bruisse et respire en moi ». Et vous ajoutez « L'immensité des fjords, des vallées m'inonde dedans ». Donc on sent que vous avez fait corps, finalement, à la fois avec la mer et puis avec tout cet environnement. Et vous repartez avec.
Et on ne sait pas trop quoi en faire. Parce
quand
que c'est là et on ne sait pas trop comment. Écrire ces livres, c'est ça en fait. C'est essayer de déverser toute cette tendresse, tout cet émerveillement qu'il est tellement difficile de mettre en mots quand on rentre. Parce qu'on est plein de ça, mais ça ne se voit pas du dehors.
Oui, c'est ce que vous racontez justement, c'est que vous êtes dans le Paris-Brest, vous êtes avec tout ça à l'intérieur de vous, ce retour de voyage, toute cette mer et tous ces fjords et tous ces icebergs, et puis vous êtes dans le Paris-Brest.
Et puis je vais retrouver des amis qui n'ont pas vu tout ça, qui n'ont pas vécu tout ça, et qui ont besoin de me parler de la carie de leur petit, et c'est au moins aussi important que l'iceberg qui est un peu coincé du côté bâbord de mon estomac.
Et en même temps, j'imagine que ça donne envie de repartir en voyage, de repartir en mer.
Ne croyez jamais un marin qui vous jure qu'il ne partira plus.
Ah bon ?
Mais non, le large, c'est une fontaine à laquelle, quand on a goûté, on y revient.
La boucle est bouclée, prendre le large. Merci Sandrine Pierrefeu.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de vos deux récits parus aux éditions Glénat, « Partir 66 degrés nord » et « La matelote et les funambules », votre dernier livre. Merci à Raphaël Plusqueva pour sa lecture, à Lina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives, Jérémy Bouchet, Céline Develay-Mazurel, on vous salue, chers auditeurs si loin si proches. Un salut spécial aussi aujourd'hui aux marins qui nous écoutent. Et rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de RFI ou en podcast à toute heure sur notre application Pure Radio.